Bon matin tout le monde, bienvenue à ce quatrième épisode du Meeting des ventes du lundi. Bon matin Sébastien, Alex, Carl et Juliane que je ne crois pas connaître. Merci d'être dans les premiers ce matin. Je vois que Maud est là aussi. Donc, content de vous avoir avec moi ce matin pour débuter votre semaine. Rappelez un petit peu le concept, c'est une ligne ouverte sur les ventes. Donc, je prends vos questions au fur et à mesure. Vous pouvez soit me les taper dans les commentaires ou le chat. Ou si vous sentez un peu plus game, il y a un lien StreamYard que j'ai posté plus tôt ce matin. Vous cliquez là-dessus et ça vous permet de venir la poser en ligne avec moi ou d'intervenir si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec quelque chose que je viens de dire. Donc, c'est un petit peu ça pour ce matin. Comme je vous ai dit, les questions, c'est de cette façon-là. Bonjour Cathy, bonjour Loïc. Je vais commencer tout de suite ce matin en vous présentant une image que j'ai eu la semaine dernière suite à mon commentaire. Je vous parlais des pizzas puis de Nick Seljuki, en tout cas, Nick C. J'ai Guy Bernadet qui m'a fait envoyer ça. La partie drôle, c'est les pizzas. Comme vous le savez sans doute, là, j'aime pas mal parler de bouffe et ces choses-là. Donc, il m'a envoyé ça. Je suis allé l'écouter. Super intéressant comme podcast, cette partie-là. Dans le fond, c'est une entreprise. Il a interviewé un gars qui vient d'une entreprise qui s'appelle Outreach, donc qui permet d'automatiser tout ce qui est la séquence de développement des affaires, là, les courriels, ces choses-là, qui permet de voir si les courriels ont été ouverts, et ainsi de suite. Ce qui est intéressant, c'est que Outreach, dans leur processus de onboarding, de ce qu'ils appellent un SDR, donc Sales Development Representative, ce qu'ils font, c'est qu'ils font vendre la pizza. Le jeu est un peu ridicule, mais tu appelles dans une entreprise et tu essaies de leur vendre une pizza. Tu te fais dire non. Donc, l'idée en arrière de ça, c'est un peu de défaire la problématique autour du non. Ça nous permet aussi de pas avoir peur de la réjection, d'en avoir plusieurs. Et ceux qui gagnent, ben, c'est le premier qui vend une pizza qui vend ça. Donc, je voulais vous présenter ça ce matin. Pour vous montrer qu'il y a des choses un peu différentes qui peuvent être faites dans votre onboarding quand vous engagez des nouveaux gens en vente, de leur faire essayer des choses qui sont en dehors de la norme, donc de leur faire vendre un produit complètement différent de ce que vous vendez, d'enlever le côté dangereux. On s'entend de vendre une pizza, c'est pas vraiment dangereux, et sont partis avec ça. Donc, je vais dire un petit bonjour. Bonjour Louise, Benoît, Linda et Nicolas. Merci de vous joindre à nous ce matin. Donc, si on commence tout de suite, la semaine dernière, je ne sais pas, Maud, c'est toujours là, tu m'avais t'avais proposé de te joindre pour qu'on continue un petit peu sur le dire non, parce que Maud et moi, on s'était croisés la semaine précédente. Malheureusement, elle ne pouvait pas être avec nous lundi matin, mais on avait discuté un petit peu de dire non, puis Maud parlait de dire « c'est mieux de dire un bon non qu'un mauvais oui ». Donc, quand tu seras prête, tu pourras te joindre à nous. Sinon, je voudrais vous présenter un autre post que j'ai vu passer dans la dernière semaine, que je vais vous mettre tout de suite, comme ça ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Simon Chamberlain résume rapidement son post. Il parle du respect du temps. Donc, respecter l'heure du rendez-vous, respecter la durée du rendez-vous, 15 minutes, c'est 15 minutes. J'ai commenté là-dessus, mais je voulais y revenir parce que c'est quelque chose de super important de mettre du respect. Quand le client vous autorise ou vous donne un 5 minutes, un 10 minutes, un 15 minutes, essayez de garder ça le plus près possible de ce qu'il vous a octroyé comme temps. Donc, si... excusez-moi un instant... s'il y a 15 minutes, allez-y pour votre 15 minutes. Si le client vous ouvre la porte, puis demande de l'intérêt, puis pose des questions, puis que 15 minutes tourne en une heure, c'est correct. Mais c'est pas vous qui avez imposé votre agenda, c'est le client qui l'a accepté et qui vous demande de faire plus de temps à ce moment-là. Donc, c'est un petit peu ça que je voulais parler. Puis, j'ai eu, c'est-tu sur celui-là? Je vais Je vais le repasser ici. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais Dave Cameron, suite à ce commentaire-là, écrit « C'est comme une entrevue pour un emploi, bien se préparer à un rendez-vous client et respectueux, demande non sérieux, qu'on a pris le temps de faire nos devoirs. » Effectivement, ce n'est pas la première fois que je parle de ça, la préparation, comment c'est crucial, comment c'est là que vous allez faire vraiment la différence, de bien connaître votre client. La semaine dernière, on a parlé d'avoir une idée des enjeux qu'ils peuvent avoir, d'avoir une idée de la solution. Sans nécessairement arriver avec des idées préconçues, d'avoir déjà une certaine forme de réflexion qui a été faite de votre côté pour vous amener un petit peu plus loin, pour vous amener à démontrer le sérieux de toute votre démarche en arrière de ça. Donc, c'est un petit peu ce que j'avais pour parler là-dessus. On pourrait aussi encore jaser de la préparation, mais c'est pas nécessairement ce qu'on voulait jaser non plus ce matin. J'ai eu des discussions aussi dans les dernières semaines sur les fameuses recettes magiques. Vous savez, là, les gens qui vous disent la façon de vendre, la façon de rejoindre ça. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que je suis pas très fort des recettes, je suis pas très fort de une seule façon, une approche cookie cutter ou one size fit all. Je ne suis pas nécessairement en accord avec ça, dans le sens que tout le monde qui est ici ce matin, on est tous uniques. On a toute notre façon de faire et on vend tous d'une façon et on a tous une façon dont on aime mieux être vendu. Donc, de s'adapter à la personne qui est en face de vous, ce que je recommande beaucoup, c'est d'être curieux, de vous inspirer, de prendre des idées un peu partout. Tu sais, ça fait que moi, j'écoute des podcasts beaucoup du côté anglo, mais aller chercher des idées-là, les mettre à ma sauce, les tweaker, les modifier, les représenter. Il y a déjà un bon bout de temps, si on remonte là, probablement en février, mars ou avril, dans ces dates-là, j'avais fait un post sur Ricardo. Le seul et unique qui fait des recettes. Puis, je comptais un petit peu que, pour moi, Ricardo, c'est une belle source d'inspiration. Tu sais, j'arrive, c'est moi qui fais à manger à la maison, je sais pas nécessairement quoi faire, je vais fouiller, je trouve quelque chose, puis on part. Je fais la recette à partir de ça. Le hic, c'est que j'ai découvert aussi avec le temps que Ricardo, chez nous, ses recettes sont correctes, mais c'est pas wow. C'est souvent pas assez épicé. Il manque des fois un petit quelque chose où il met des épices, des trucs qu'on aime moins. T'sais, je vous dirais qu'on n'est pas une famille qui aime beaucoup le sauge. Et dernièrement, on s'est ramassé avec 2-3 recettes qui demandaient ça. Ben, je prends d'autres choses dans mon armoire d'épices, puis je roule avec ça. Ben, c'est un peu la même chose en vente. Découvrez allez vous chercher des idées, allez chercher qu'est-ce qui existe ailleurs, de quoi vous pouvez vous inspirer, mais en même temps, ramenez-la à votre sauce, rendez ça unique, parce que vous ne voulez pas qu'un client ait l'impression que votre approche, c'est la même que le gars d'à côté, ou que votre approche, ben, c'est la même que vous faites tout le temps, puis que vous ne préoccupez pas de ses besoins, de ce qu'il touche lui personnellement. Donc, je vais reprendre encore quelques minutes. Là, on a Véronique, Dave, Martin, Vicky qui se sont joints à nous. Je vais juste mettre le commentaire de Véronique qui, d'après moi, tellement ça se ressent quand ce sont des méthodes toutes faites. En effet, tu sais, il n'y a rien de... Quand tu as l'impression que c'est pas personnalisé, que ça fait partie d'une séquence, que c'est juste... c'est comme ça qu'on fait les choses, c'est le fameux, on a toujours fait ça comme ça. Moi, je ne vous le recommande pas. Ça peut être très, très difficile de vous différencier. Ça va aussi donner une mauvaise impression à votre client. On va dire bon matin à LinkedIn User que je connais pas, mais merci de te joindre à nous en ce beau lundi matin. Donc, les autres choses que je pourrais vous jaser, la semaine dernière, puis j'ai fait un post là-dessus, mais sur le développement des affaires, puis c'est aussi quelque chose que je pense qui touche tout le monde ici. Si vous avez lu mon post, je racontais un petit peu le week-end dernier, pas celui qui vient de terminer, mais l'autre, on est allé dans un chalet avec des amis, et il y en a là-dedans que je connaissais moins, donc on se met à parler. Faire une histoire courte, parle, parle un petit peu de ce qu'on fait. Moi, j'explique que je fais, entre autres, ce que vous écoutez ce matin, donc le meeting des ventes du lundi. Et là, ma blonde, en arrière, dit, ben écoute, à part à rire, elle dit, bon, même au chalet, tu fais du développement des affaires. Le développement des affaires, ça se fait à tout moment, OK? C'est quelque chose qu'au chalet, à l'épicerie, au gym, vous avez vos enfants font du sport, vous êtes dans les estrades, développement des affaires, vous ne savez jamais quand est-ce que ça peut clutcher. qui vous avez à côté de vous, à qui vous parlez et qui cette personne-là connaît. Parce que c'est pas nécessairement, c'est ça la force du réseautage, c'est pas nécessairement la personne avec qui vous entrez en relation à ce moment-là qui est importante. Bien que oui, mais c'est aussi toute la personne, tout le réseau que cette personne-là connaît. Par exemple, tu sais, je sais pas, je regarde, bon, ben, moi, je connais Martin. Qui Martin connaît qui peut me présenter? Est-ce que ça peut aider à avancer ma business? Donc, c'est toutes des choses qui sont possibles de ce côté-là. On est un petit peu, on revient un peu en arrière, mais Vicky qui dit il ne faut pas sortir le broken record. Effectivement, Vicky, tu as 100% raison. Puis, je sais pas pour vous, moi, j'ai un moment qui me revient en tête. Je commençais à faire du B2B, on parle de peut-être 2006, début 2007. Je vends de l'équipement de vérification dans des ateliers de mécanique à ce moment-là. Puis je suis assis. En fait, je suis en train de faire une démo. Et là, j'ai mis la cassette. Puisque mon boss m'expliquait qu'il fallait que je le dise exactement. Et à un bon moment donné, je me suis perdu. Je suis parti, comme j'aime dire, là, je suis parti aux fraises dans ma tête. Puis je ne savais plus trop où j'étais. Et à un moment donné, j'ai comme arrêté. J'étais blanc. J'ai eu un blanc. Je ne sais plus ce que j'avais dit. Puis là, j'ai vraiment dit au client, est-ce que ça, je viens de te le dire ou je ne te l'ai pas encore dit, tout ça? Pas besoin de vous dire que j'ai pas fait la vente. Le client n'était pas nécessairement très impressionné de mes talents à ce moment-là parce que j'avais exactement sorti la cassette. Je préfère enseigner des concepts et des approches plutôt que des méthodes. Effectivement, une méthode, tu sais, c'est là que ça devient intéressant. Véronique, quelqu'un comme toi peut enseigner. Ben, en fait, je dirais que c'est un peu des deux. Tu montres comment toi tu le fais, puis tu invites les gens à t'inspirer de ton approche, de tes concepts, ce qui est probablement super intéressant. J'ai Dave qui dit, sinon je te corrige, tu aimes les recettes, pas les recettes miracles en vente, mais les recettes culinaires avec ma touche personnelle. Bon, Dave, tu me connais un peu trop. Et j'ai Louise qui dit, quand on rentre en relation avec une personne, on rentre en relation avec un minimum de 100 personnes potentiellement qui ont besoin de ce qu'on offre. Écoute, jusqu'à date, je pense que c'est un des commentaires les plus justes que j'ai lu ce matin. Effectivement, c'est exactement ça. Quand on rentre en relation, c'est les gens qui nous... on décuple, on centuple la force de notre réseau. Donc, c'est quand vous faites du développement des affaires, puis je vais revenir là-dessus, mais vous ne savez pas avec qui vous faites affaire. Donc, c'est aussi important, par contre, dans cette optique-là, de garder en tête votre image, que ce soit sur les réseaux sociaux, donc LinkedIn, que ce soit sur Facebook, dans vos courriels, mais aussi comment vous comportez en général. Vous ne savez pas avec qui vous faites affaire. Puis, j'osais avec mon ancien boss le jeudi dernier et il me contait que, bon, lui, ça est arrivé encore dernièrement. Il dit, je m'en vais au village. Maman jasait avec un gars, tu sais, à l'épicerie. Puis, il est en chienne, puis il a l'air un peu rough, puis il conduit un vieux pick-up. Fait que je le recroise 2-3 semaines plus tard à l'hôtel de ville pour finalement me rendre compte que c'est... Il ne m'a pas donné le nom, mais une personne relativement connue du monde des affaires. Il dit, ben tu le vois pas, tu le sais pas. Mais par son... la façon dont il s'est comporté, ben cette personne-là a quand même une bonne impression de mon ancien boss. Je ne sais pas si Maud, tu es toujours avec nous. Je te prendrai pour qu'on jase un petit peu de nom, de mettre ses limites si tu es toujours partante. Sinon, je vais continuer avec ce que j'ai. Donc, je vais te donner quelques secondes. Non? Non? OK, ben, je vais prendre une gorgée d'eau. Et on continue. Toujours dans ce qui s'est passé dans ma dernière semaine, dans les exemples que je voulais donner, puis on a déjà parlé de ça, mais c'est au niveau du prix ou de la valeur, je devrais dire. C'est plus la valeur dont je veux parler. Donc, on a tous des fois de l'idée de donner des escomptes. Oh, je suis là. Maud, veux-tu embarquer sur le stream avec moi? Le lien était dans la description ou si quelqu'un veut te l'envoyer. Pendant ce temps-là, je vais continuer mon truc, là, mais... La valeur, on a souvent tous une vision, puis on met une valeur sur les choses, puis on met notre propre paradigme. Je veux vous amener à réfléchir au niveau de qu'est-ce que c'est la valeur, puis pourquoi vous ne pouvez pas prendre la décision pour votre client si c'est un bon ou un mauvais achat, si c'est cher ou trop cher ou pas assez cher. J'asais avec un client la semaine dernière et on parlait de valeur. Puis là, je dis, écoute, tu sais que tu connais Kurt Cobain. Il me dit, oh, oui, je connais Kurt Cobain. Bon, tu es au courant que Kurt Cobain était un ironoman, un addict, assez notoire. Il mettait plein de cochonneries dans son corps. Il dit « Oh oui, je suis bien au courant de ça. » Bon. Puis là, j'ai posé la question, « Sais-tu qu'est-ce que Cobain conduisait comme véhicule à ce moment-là? » Il me dit « Non, sinon, j'ai aucune idée. » Fait que là, la réponse, c'est qu'il conduisait un Volvo 740. Fait qu'on remonte dans le début des années 90. Volvo 740, à ce moment-là, est le véhicule le plus sécuritaire sur la route. Cobain conduisait pas au-dessus de la limite permise. Fait que là, on s'entend, là. T'as un gars, un rockstar, qui shoot de la cochonnerie dans les veines à côté. Et pour lui, il met beaucoup, beaucoup de risques dans sa vie. Mais quand il est sur la route, il faut qu'il ait le véhicule le plus sécuritaire possible. Fait que je veux juste vous amener à voir ça comme perspective. Et là, je vais inviter Maude à se joindre à moi.
Salut Simon!
Maude!
Salut Simon, salut tout le monde!
Bonjour! Comment tu vas?
Je vais super bien! Et vous autres, et toi?
Ben écoute, moi c'est un lundi matin, il y a de la neige. La saison de ski se rapproche à très, très, très grands pas. Donc, ça va super bien. Content de t'avoir avec moi ce matin.
Je suis bien content d'être là aussi.
On s'est parlé, nous, on s'est croisés dans un 5 à 7 il y a une semaine et demie. Mm-hmm. Puis, je t'ai parlé que j'allais aborder le sujet de dire non, mettre ses limites. Puis là, tu as dit, ah, tabarnouche, je peux pas être là lundi, j'ai déjà quelque chose. Mais tu avais des choses à apporter. Fait que, écoute, j'aimerais ça t'entendre parce que, pour ceux qui le savent pas, Maude et moi, on a un peu la même approche, mais pas au même niveau, pas au même. En fait, on se complète. Moi, je fais le développement des affaires, les ventes, et Maude s'occupe de tout ce qui est service à la clientèle, service après-vente. Donc, Maude, qu'est-ce que tu as à dire sur dire non, mais tes limites?
Ben, en fait, pour les personnes qui sont ouvertes à entendre ma vision, c'est vraiment le fait de, trop souvent, je pense, on pense à tort que moi, étant donné que je travaille en service client puis que je prends beaucoup la gentillesse, l'accueil, la relation hyper positive, souvent on a tendance à penser que d'aller dans cette vision-là, ça veut toujours dire oui au client. Mm-hmm. Alors que ce n'est pas du tout ça. Puis quand on a jasé il y a une dizaine de jours, justement, tu sais, on parlait du fait de, comme tu as mentionné tantôt, qu'un oui peut être tellement néfaste pour notre organisation. Et un an peut être hyper bénéfique. On a donné quelques exemples. Puis, c'est que l'important, quand on dit un oui ou qu'on dit un non à notre client, mm-hmm. c'est de la façon de le dire, de l'attitude, c'est quoi notre intention derrière ça? Parce que si je donne un exemple, si je travaille, que je reçois des clients régulièrement, puis que ouais. si j'ai un agenda bien chargé, un client m'appelle, il veut me voir là, après-midi, à 1h, il veut me voir. Moi, mon agenda est déjà chargé. J'ai quelqu'un à 1h15, exemple. Puis là, je m'avais prévu un petit 20 minutes pour dîner. Je suis déjà full chargé. Puis je pense qu'il faut que je lui dise oui pour développer une relation saine, mais je vais lui dire un oui qui est stressé, qui est oppressant, qui est même des fois culpabilisant. Donc, je vais dire quelque chose comme « OK, viens, attends, je t'attends. Ben, il était tout à la dernière minute, puis tu me sers beaucoup dans mon horaire. » Donc, la réponse est oui, mais l'attitude, l'intention derrière et le sentiment que j'ai est négatif. Donc, je suis en train de lui mettre un sentiment négatif. Ça se peut qu'à la dernière minute, finalement, lui annule parce que ça n'est plus devenu parce qu'il ne s'en coupe pas. Alors que là, je suis en train de mettre une coche sur ma relation client. Alors que si je lui dis un non assumé, tout gentil, que je lui dis, oh Simon, j'aurais vraiment aimé te recevoir aujourd'hui, ce serait impossible pour moi. Est-ce que tu as de la place demain ou pourrais-tu venir demain à 4 heures?
Okay.
Donc, comme mon intention est positive et que l'accueil, parce que tu sais, dans une intervention client, peu importe sa durée, peu importe son contexte, la première étape, c'est toujours l'accueil. Alors, quand j'accueille cette demande-là positivement et avec la meilleure des bienveillances du monde, même si mon résultat à la demande est négatif, la relation peut être durable et très, très bénéfique. Et il y a, tu sais, il y a des foules d'exemples, des clients. Donc, là, le plus important, c'est d'assumer notre réponse, de l'assumer sincèrement, qu'elle soit positive ou négative, c'est de l'assumer Sincèrement. Donc, quand on dit un... Oui, vas-y.
Ben, si je comprends ce que tu me dis, dans le fond, c'est je suis mieux de dire, Maud, non, je ne peux pas le faire, puis d'être solide dans mon non, que de te dire un oui un peu mou, puis que tu as l'impression que, tu sais, je le fais, mais je le fais à contre-cœur, je le fais à reculons, c'est ça?
Oui, c'est ça, c'est de ne pas le faire à contre-cœur. Mais je veux juste mettre une bémol sur un non solide. C'est, oui, la réponse est solide, mais elle est assumée, mais mon intention, en fait, c'est que j'aurais l'intention de te dire oui.
Mais c'est
pas
possible.
La réponse est non. Tu sais, c'est que c'est pas un non. Aussi, il y a des petits mots des fois qui font toute la différence sur non, malheureusement, ou je pourrais pas répondre à ça malheureusement. C'est que quand on dit un malheureusement, là, on vient de mettre un mot qui est négatif, puis ça aussi, ça diminue notre propre décision. Ça diminue le fait qu'on assume notre propre décision. Donc, on l'assume tout bonnement. C'est comme si, aussi, tu sais, d'autres exemples, on a vu si quelqu'un me demande de venir faire une conférence gratuitement.
Oui.
Bon. Puis là, on va dire non, puis là, je suis tannée, ça fait déjà 2 ans que je donne des affaires gratuitement. À un moment donné, il faut comprendre que là, il faut payer mes services. Gratuit. Ça fait qu'on est en train de mettre chez le client, chez le potentiel client, la responsabilité de savoir c'est quoi ma décision, moi, aujourd'hui.
OK.
Donc, lui, là, si ça fait 2 ans qu'il veut que je vous donne des conférences gratuitement, c'est normal qu'aujourd'hui, qu'il me demande d'aller donner une conférence gratuitement. Mm-hmm. Je n'ai pas à le faire comme sentir un peu coupable de me demander d'aller encore gratuitement. Puis là, après ça, je vais me revirer de bord, puis là, je vais aller jaser avec des amis, puis là, je vais dire, bon, imagine-toi qu'il y a encore du monde qui me demande de donner des conférences gratuitement. À un moment donné, il ne faudrait pas comprendre qu'il faut que je me fasse payer pour ce que je fais.
Ouais.
Donc, c'est d'assumer avec bienveillance ou les oui ou les non. Puis, il y a j'avais quand même écouté une partie. Je l'ai écouté
après,
c'est ça. Puis, tu sais, il y avait quelqu'un qui posait justement une question sur les rabais. Quelqu'un qui me demande souvent des rabais. Puis là, on parlait d'une de ses collègues de travail qui était comme mal à l'aise de dire des noms et tout ça. Là, on lui a expliqué pourquoi prendre une décision de oui ou non. Oui, il y a le pourquoi. C'est sûr qu'en amont, il faut que je me pose la question. Est-ce que je vais dire oui ou est-ce que je vais dire non à un rabais? Puis où est-ce que je vais aller? C'est sûr qu'il faut que je sois prête à savoir jusqu'où je vais aller dans ces demandes-là. Encore là, c'est la même chose. Si j'accorde un rabais à quelqu'un parce que je suis mal à l'aise de dire non ou parce que j'ai peur de le perdre parce que je vais dire non, je suis pas dans le bon alignement. Je suis bien mieux de recevoir sa demande et d'y dire, oh, ben ça me fait vraiment plaisir de vous accorder un beau 15% aujourd'hui pour de vrai, là, si je le ressens pour de vrai. Puis c'est... Ou bien lui dire, aujourd'hui, on n'a pas de rabais pour vous. J'aurais vraiment aimé vous offrir ça. Aujourd'hui, voici le coût qu'on est prêt à vous vendre telle chose. Ben, il y a plusieurs contextes différents, puis souvent, il faut aller dans le pointu. Mais donc, on va dire, ben, j'aurais aimé vraiment vous accorder ça. Aujourd'hui, notre coût, c'est ça. C'est ce qui est raisonnable pour nous. C'est ce qui nous apparaît le plus raisonnable. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous allez faire l'achat quand même? Donc, c'est oui ou c'est non, là, c'est le client qui décide. Mais c'est important que j'assume ce que j'ai à dire.
J'allais te demander, Maud, dans le fond, est-ce que de trop en dire des fois, tu sais, parce que des fois, je t'écoute, puis là, je me dis, moi, j'ai tendance des fois à pas trop m'étendre pour pas me tendre un piège, pour pas retomber dans mes affaires, tu sais, de dire juste, écoutez, non, merci, je suis désolé, aujourd'hui, j'ai pas de rabais, sans aller plus loin. Et toi, est-ce que tu recommandes qu'on en dise plus, qu'on garde ça... Short and sweet?
Plus c'est court, oui, mieux c'est. Mais je te dirais, Simon, que c'est vraiment important d'aller voir c'est quoi le contexte. C'est-à-dire que, tu sais, as-tu des clients qui sont là et que as-tu une file qui est en train d'attendre? C'est-tu un client que ça fait 10 ans que t'as? C'est-tu? Fait que, mais oui, plus c'est court, mieux c'est. Mais il y a des fois des clients qui préfèrent avoir un peu plus d'informations. Okay.
Bon, on revient un petit peu à ce qu'on dit depuis le début ce matin. Il faut s'adapter. Il n'y a pas de recette. Il faut aller avec notre feeling, avec ce qui est en avant de nous.
J'aime vraiment le fait que tu mentionnes qu'il n'y a pas de recette miracle. Puis moi, je pense que qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est, en tout cas dans le oui ou dans le non, là, c'est d'assumer sa décision et de le faire sincèrement avec gentillesse et bienveillance.
Okay.
Que ce soit un oui ou que ce soit un non. Ça va nous éviter de patiner puis d'essayer de tout.
De faire plaisir.
De raison pour dire non.
OK. Bien, c'est intéressant. Puis ce que je retiens aussi de ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que ton nom, c'est pas. Tu sais, ton nom, tu l'amènes à se transformer. Dans le fond, dans les discussions que j'ai souvent avec Dave, il me parle de. Tu sais, amène le client dans ton monde. Donc, plutôt que de le laisser. Comme ça, puis de dire non, écoute, je ne suis pas intéressé. Tu dis, je peux pas, ça, je peux pas, mais je peux t'offrir ça. Ça, je peux pas, mais viens chez nous, j'ai ça à la place. Donc, de transformer ton nom en quelque chose de différent. C'est ça que je comprends?
Oui, le transforme, parce que c'est un nom qui est positif. Fait que s'il est positif, tu le gardes avec toi. Puis comme le monsieur tantôt qui m'a demandé un rendez-vous, je ne peux pas à 13h, mais je peux demain. Ça fait que l'intention est positive, puis je l'ai transformée, puis je veux le garder avec moi. Puis qu'est-ce qu'on voit aussi des fois, en tout cas, moi, je trouve que je vois ça assez souvent, c'est les noms qui sont... vous n'allez peut-être pas aimer le mot, mais tu sais, c'est peut-être minime, mais je trouve que l'essence est là. C'est un nom qui est un peu comme culpabilisant. Tu sais, on va refuser un client. Un client va nous faire une demande très spécifique, puis on va le refuser comme client. Puis, nous, on est comme fiers d'annoncer qu'on a dit non.
On dit non, moi.
Un client m'a demandé telle chose, j'y ai dit non, il ne répondait pas à mes valeurs. Moi, je ne veux rien savoir de faire affaire avec un client qui n'a pas les mêmes valeurs que moi. Puis là, j'annonce ça tout, tu sais, avec une certaine fierté. Mais c'est correct de dire non. Mais si j'annonce le fait, premièrement, le client à qui je viens de dire non, il va voir mon poste que c'est de lui que je parle.
Ouais.
Puis comme quelqu'un, comme Louise mentionnait tantôt, un client, ça vaut 100, ça peut valoir 1000 clients. Mais le client que je n'ai pas envie de servir aujourd'hui, là, il peut devenir mon meilleur ambassadeur de demain. Donc, j'ai pas aucune bonne raison, à mon sens, de venir annoncer que je suis tombée contente de y avoir dit non parce qu'il ne répond pas à mes valeurs. Tu sais, quand quelqu'un veut répondre, c'est sûr que des collaborateurs, des associés, des gens avec qui on travaille, c'est hyper important qu'ils travaillent avec les mêmes valeurs que nous. Mais des clients, on peut en avoir des dizaines, des centaines. Jusqu'à quel point je veux que mes clients aient vraiment les mêmes valeurs que moi? C'est sûr qu'un client ne m'amènera pas à moi faire des actions qui vont aller à l'encontre de mes valeurs. Mais ses valeurs à lui, c'est important que je les respecte, même s'ils ne sont pas comme les miennes. Parce que je vais en rencontrer tout le temps des valeurs des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs
que moi. Effectivement. Puis je veux rebondir un petit peu sur ce que tu as dit. T'sais, un client à qui tu dis non ou un client qui t'a mal servi peut devenir ton meilleur ambassadeur. Puis, si tu te souviens, dans une de nos. Il y a quand même plusieurs années, quand on s'était croisés dans une formation, j'avais donné un exemple, moi, d'un restaurant ici à Québec où j'allais régulièrement. Puis, écoute, on arrive là un petit peu, j'arrive là avec mon collègue, on arrive là un peu en dehors des... un peu tard. Normalement, on est là vers midi moins 5, on arrive, il est plus midi 25, midi et demi. Et là, on est assis à une table et tout le monde passe autour de nous. On a eu un verre d'eau, that's it. Puis là, à un moment donné, ben, il faut qu'on mange, il faudrait bien qu'on mange puis qu'on retourne travailler. Fait qu'on se lève, la gérante ou le. Bon, la gérante est à la porte, on nous dit écoutez, merci messieurs, j'espère que vous avez bien mangé. Et la réponse a été non, on n'a pas mangé. Et là, elle s'est comme complètement désorganisée. Elle s'excuse, je vais vous faire préparer un lunch. Je suis désolé, je ne peux pas. Écoute, je vais faire ça vite, mais elle nous a réinvités là à payer notre lunch. Ils se sont super bien occupés de nous autres. Là, ils étaient prêts à payer le vin, la bière, dessert, name it. Mais bon, on est des gars raisonnables. Fait qu'on a mangé ce que je mange d'habitude. Puis après ça, ils faisaient un lancement ou la réouverture de leur restaurant à nous inviter là. Écoute, c'est quelque chose qui s'est passé, ça doit faire une douzaine d'années. Puis j'ai encore ça en tête. Puis c'est encore le restaurant, j'en parle encore. Puis tu sais, je vais le dire, c'est le Paris Grill. C'est le Paris Grill, quand ils ont déménagé de leur ancien locaux au Jules Dallaire, juste dans cette période-là. Puis encore aujourd'hui, c'est un de mes restaurants préférés.
Ah, c'est drôle, je m'en vais justement manger là vendredi. Ah. Puis, t'es vraiment en train de prouver un des principes que je démontre souvent dans mes ateliers de travail, c'est qu'un client qui n'est pas satisfait aujourd'hui d'une certaine situation, quand on réussit à la récupérer, là, ce client-là, son niveau de satisfaction devient encore beaucoup plus élevé qu'un client qui est satisfait comme du premier coup. Okay. Donc, c'est pour ça qu'un client qui nous demande une insatisfaction, merci, merci, il y en a juste 2%. Il y a juste 2% des clients qui vivent une insatisfaction qui vont nous le dire. D'ailleurs, toi, tu voyais, tu allais sortir du restaurant. Donc, tu as eu la. Là, tu as posé la question, donc tu as eu le temps de parler. Mais il y a 98% des clients qui vivent une insatisfaction qui ne nous feront jamais savoir.
Ben, c'est vrai.
C'est hyper important de dire merci puis de, que, qu'on reconnaisse ça puis qu'on s'en sert pour faire comme vous en faites avec toi puis que ça devienne
important. Ben, tu as 100% raison parce que si elle ne nous avait pas poigné sur le fly-là, je serais parti. Et il y a de fortes chances que je n'aurais jamais remis les pieds là. Parce qu'on ne se le cachera pas, là, Québec, c'est pas comme s'il n'y avait pas de restaurant. Là, on avait du choix en masse. C'était un de nos endroits, localisation et tout, qui était facile d'accès. Ouais. Mais je n'étais pas obligé d'aller là. Donc,
c'est ça. Puis quand tu dis forte chance, là, c'est à peu près 65% des gens qui ne retourneront jamais.
Ah ouais?
En sortant, ils ont déjà pris la décision qu'ils ne retourneront jamais. Donc, c'est important qu'un client insatisfait qu'on l'accueille. Puis c'est pour ça aussi que c'est important de ne pas attendre qu'un client vienne nous dire qu'il est insatisfait parce qu'on sait qu'il s'en fait erreur. Donc, aller sonder plus souvent, là, régulièrement, okay. Au quotidien, là, demander au client.
Puis comment tu fais? Je veux dire, tu fais des sondages, tu appelles tes clients, tu sais, c'est sûr que quand on est en B2B, puis c'est une relation régulière que tu. C'est faisable, là, mais. Comment tu recommandes de faire ça, d'aller chercher du feedback?
Tout ce qui s'appelle le sondage, là, puis technologie, puis parcours client, ça c'est pas mon domaine à moi, mais oui, je considère que c'est important de le faire. Mais le plus concret du monde, là, c'est vraiment au quotidien quand on sert nos clients. Donc, même si c'est une relation d'affaires, là, comme ce que tu appelles le B2B, donc, genre à la fin de notre discussion. Bon, on fait un petit résumé de notre discussion, ou bien... es-tu content de la façon que ça s'est passé aujourd'hui, Simon? Donc, juste une question comme ça. Puis quand c'est des clients qui viennent plus régulièrement, tantôt tu parlais d'un resto ou un magasin grande surface, vous avez trouvé tout ce dont vous avez besoin, ou bien êtes-vous content de votre visite aujourd'hui, ou des choses plus... une petite question plus...
Mais on s'entend, Maud, puis là, il faut qu'on soit prêt. Si tu poses cette question-là, il faut que tu sois capable, il faut que tu sois équipé pour recevoir ce que tu vas recevoir, ce qui va arriver. Là, parce que,
quel bon point que tu amènes là.
T'sais, n'importe qui peut dire « Ah oui, elle est bien servie. » Si tu réponds non, il faut que la personne soit capable de réagir sur le spot. Sinon, ça vient de scraper l'intention.
Tellement. C'est pour ça qu'il faut développer des outils justement pour accueillir. T'sais, quand je dis des outils, c'est des trucs. Comment accueillir ça? Parce que c'est comme le fameux « comment ça va? » OK, puis on va dire oui, on va dire non, puis on ne fait rien avec ça.
Je vais te poser une question. Justement, au niveau service à la clientèle, au niveau un peu plus global, qu'est-ce que tu penses de la façon de faire qui semble être de donner un certain budget aux employés pour régler les problèmes de clients? Je me souviens d'avoir déjà lu ça qu'un hôtel offrait ça. Chaque employé avait un budget annuel qu'il pouvait utiliser comme il voulait pour régler un problème d'un client, que ce soit acheter du linge, name it, là. Comment tu perçois ça?
Ben moi, j'adore ça. Puis, je pense qu'il faut toujours avoir un jeu quand même. Après, si tu donnes un budget à un membre de ton personnel, puis qu'on est rendu au mois d'octobre, puis que son budget est annuel, mais il faut aller voir c'est quoi la marge qui lui reste. Mais l'important, c'est que chaque membre du personnel doit connaître son niveau de responsabilité, puis son niveau décisionnel. Et c'est encore là, OK, je vais donner un budget, mais comment montrer à la personne comment l'utiliser? Souvent, si admettons comme ton histoire au restaurant, si on t'avait offert un dessert, ça aurait-tu fait ton affaire? Peut-être que pas. Bon, viens te chercher un petit dessert. Peut-être que ça n'arrêtait rien pour toi. Mm-hmm. Une des façons de faire aussi, c'est de demander aux gens qu'est-ce qu'on pourrait faire qui vous satisferait ou qu'est-ce qu'on pourrait faire pour nous rattraper ou
Ben, pis, c'est tu vas avoir des surprises. Tu vas être d'accord avec moi. Il y a des fois qu'on s'attend que ça va nous coûter 400$ pour régler un problème. Puis pour faire plaisir au client, ça nous a coûté 35$ puis il est super
exactement.
Heureux.
Exactement. Puis le plus souvent, ça ne coûte absolument rien.
Oui. Effectivement. Effectivement. Ça nous est juste arrivé là, de dire. T'sais, moi, j'ai des situations qui me viennent en tête où est-ce que, OK, je me dis, bon, ben ça va me coûter ça, ça, ça pour faire plaisir au client. Puis tu lui demandes. Puis non, écoute. Tu sais, enlève-moi telle charge, puis je vais être bien heureux. Puis tu dis, OK, c'est pas plus compliqué que ça.
C'est ça.
Good.
Oui, c'est ça. T'sais, dans ton cas, ça pourrait être. Si on vous offrait un repas gratuit, est-ce que ça vous conviendrait? Puis des fois, ça peut aller très large, puis ça peut être petit. Mais comme je disais d'entrée de jeu, là, il n'y aura jamais rien qui sera plus important que l'attitude et l'intention réelle derrière qu'est-ce qu'on fait.
Mm-hmm.
C'est la même affaire quand on parle des clients. Si on parle en même temps, il y en a qui parlent de clients difficiles, moi, ça ne fait pas partie de ma philosophie de qualifier et de nommer, de qualifier les clients.
OK.
De ne pas leur donner des qualificatifs, certainement pas des qualificatifs négatifs. Mais si devant eux, là, on fait attention, puis on se retient, puis on ne va pas aller dire que c'est un client qui est exigeant, puis un client qui est difficile, puis là, on se retient devant eux, puis qu'en arrière-plan, là, on se défausse sur nos clients, mais vois-tu que l'intention n'est pas tout à fait sincère? Mm-hmm. Alors que si je parle d'un c'est sûr que je peux parler des clients qui m'ont amené des défis particuliers,
ouais.
Mais en équipe, on est dans le total respect, puis on va parler... Tu sais, le client qu'on a rencontré ce matin, c'était quand même particulier, sa demande. On voit qu'il y a beaucoup de rigueur. Pas que c'est un super exigeant qui n'est jamais content. On voit qu'il y a beaucoup de rigueur. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour avoir la meilleure satisfaction de ce client-là? Ça pourrait arriver qu'on décide que finalement, on ne veut pas faire affaire avec. Mais ça, ça peut arriver une fois en 40 ans.
Tu sais, ça revient un petit peu, c'est quelque chose que j'ai parlé plus tôt dans le meeting, mais le respect, tu sais, c'est quelque chose que tu as nommé à plusieurs fois. Fait que le respect, c'est le respect du temps, le respect de ce que le client nous accorde, mais c'est aussi le respect de la personne qu'on a en face de nous, le respect de notre client potentiel, de notre prospect, de cette personne-là mérite notre respect quand même.
Tellement qu'il mérite notre respect. C'est tellement large. Puis c'est de se dire entre nous, dans toute notre équipe de travail, de quelle façon, au quotidien, nos actions qui vont être déployées vont effectivement être le reflet de nos valeurs. Je ne connais pas d'entreprise qui n'ont pas le mot respect dans leurs valeurs. Mais maintenant, au quotidien, comment est-ce qu'on va le faire? Puis pas juste nous comme chef d'entreprise, mais chacune des personnes.
Ouais, comment inculquer ça à tous les niveaux de notre organisation pour s'assurer que... Parce que, tu sais, je pense à un petit peu de où j'y ai, moi, le livreur, le gars qui pique la commande doit respecter ça. Le livreur qui est en contact quotidien avec le... ou plusieurs fois par jour avec le client doit le respecter, doit être... Fait qu'il y a une chaîne aussi. C'est pas juste le représentant, le vendeur puis le patron qui doit le respecter. C'est tout le monde au sein de la chaîne.
Ah oui, parce qu'une personne peut faire chambouler toute la fin. Puis on s'entend que toute l'équipe de travail, c'est elle qui démontre la culture de l'entreprise. Pour ma part, les clients difficiles m'aident à upgrader mon offre, ma présentation, ma façon de faire. Et ça permet de prévenir les objections. Que ce soit des situations difficiles qui sont présentées à nous. Effectivement, ça nous aide.
Bien, effectivement. Tu sais, la semaine dernière, moi, je rencontrais une cliente. En fait, je suis en train de faire une analyse de leur processus de vente, comment ça se fonctionne. Puis j'ai dans une des succursales, la personne, elle me dit, ben Simon, moi, tu sais, je me fais dire ça, j'ai ça de prêt. Elle a un genre de playbook déjà de fait. Justement, elle s'est fait, tu sais, il y a des clients qui ont amené des points. Elle a appris à travailler avec ça, puis à les améliorer.
Oui, c'est ça. Puis ce que tu viens de dire là, ne fais pas objection à ce que tu as dit tantôt, que tu n'avais pas de recette toute faite.
Non.
C'est important d'être prêt. En fait, ça, tu peux savoir des affaires tout à fait par cœur, puis que ça reste tout naturel quand même.
Mm-hmm.
Parce que
je vais faire une analogie avec le...
De bien se préparer.
C'est ça, exactement. Tu sais, puis on va voir un spectacle, tu vas voir une pièce de théâtre, tu vas voir... Je veux dire, c'est naturel, ils disent tout ça, mais c'est parce qu'ils sont tellement préparés, ils connaissent sur le bout des doigts, puis qu'ils sont capables de le rendre. Je ne sais pas si Chantal Carrier est encore là. Chantal est artiste de la danse. Je veux dire, pour faire des spectacles, pour danser, il a toujours bien fallu qu'elle se prépare un peu. Mais quand elle arrive là, elle est dans le moment présent, puis elle le vit. Donc, c'est pas juste tu sais, être préparé, ben oui, regarde, est toujours là, mais c'est d'être préparé puis de le garder en... le garder vivant. Ouais, cool!
Tellement.
Je vais juste regarder un petit peu, voir... bon, regarde, parce que j'en parle exactement, Simon. Mm. je vais juste jeter un œil rapidement, Maud.
Tu me dis si tu veux que je parte, puis comment faire?
Moi, je vais un petit peu les promesses, bon... ça. Non, mais c'est beau. Écoute, Maud, je te remercie beaucoup de ta participation avec nous ce matin. Tu reviens quand tu veux. Tu es toujours la bienvenue. C'est super le fun de jaser. Puis nous, ben, on va aller luncher dans quelques. On a déjà un lunch prévu. Fait que le meilleur qu'on s'assoit et qu'on placote. Off-record. Hey, merci encore, Maud. Bonne journée.
Bye-bye. Bye. Je ne sais pas si c'est toi qui m'envoies. Je ne sais pas comment faire pour m'en aller.
Je m'occupe de tout. Donc, comme vous voyez, là, on vient de passer un 20 minutes avec Maud à jaser du service à la clientèle, à jaser de dire non, mettre ses limites. Ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que on a jasé à la fin, là, mais le respect, bienveillance, de faire les choses correctement pour les bonnes raisons, que vous êtes mieux de dire un non et de, comme Dave disait, là, me dit souvent, c'est Simon, dis un non, mais ramène-le dans ton monde. Qu'est-ce que tu peux faire pour tourner ça en oui, que de dire un oui qui ne fait pas ton affaire puis qui va tout le temps te laisser un peu inconfortable, qui va te causer un certain niveau d'inconfort. On arrive à la fin du live. Comme vous savez sans doute, moi, j'aime bien terminer relativement à l'heure, donc il me reste un peu moins que 4 minutes. Je veux vous parler, si vous me suivez sur LinkedIn, entre autres, vous savez que le vendredi, je fais un post qui s'appelle « Mon petit truc du vendredi ». Vendredi dernier, j'en ai fait un sur Calendly. C'est un outil que j'utilise souvent, que j'utilise beaucoup. Je vous invite à aller lire le post où est-ce que j'explique un petit peu que le temps des fêtes s'en vient. Vous allez vouloir relaxer, ralentir un petit peu. Ben, allez prendre le temps dans votre Calendly d'ajuster vos plages de disponibilité pour ne pas vous faire booker un rendez-vous client le 27 décembre à 2h l'après-midi alors que vous aviez prévu soit jouer au Monopoly, être en ski ou juste passer du bon temps avec la famille. Je vous invite, c'est ça, à le suivre, suivre le hashtag parce que toutes les semaines, je partage des petits trucs comme ça, que ce soit Calendly, Canva, tous les outils que j'utilise. Je suis un gars relativement techno, je me tiens au courant dans ces choses-là. Donc, ça peut être une belle façon pour vous de découvrir des nouveaux outils. Je vais juste, j'ai vu, bon, juste la fin, merci. Donc, en terminant, si vous voulez poursuivre la discussion, je vais vous parler de Calendly, bien évidemment, j'en ai un, donc c'est calendly.com/Nomisco. Nomisco, c'est écrit comme, en tout cas, là, Nomisco. Donc, calendly/Nomisco. Si vous voulez m'ajouter sur LinkedIn, si ce n'est pas déjà le cas, c'est LinkedIn. /IN/SimonHarveyQC. Je vous demande juste si vous m'ajoutez de ce côté-là de mettre un petit mot m'expliquant où vous m'avez vu, qu'est-ce qui a créé votre intérêt. Ça fait pas mal de tour. Je vais prendre après ça quelques minutes pour répondre à vos commentaires, ceux que je n'ai pas eu le temps de faire pendant le live. Ça a été super intéressant. Je vous remercie de commencer votre semaine avec moi. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et surtout, je vous souhaite une bonne semaine de vente et on se revoit la semaine prochaine, même heure, donc 8 à 8h45, lundi prochain. Bonne semaine tout le monde. Bye!